Donc aujourd'hui, nous allons voir, je pense que vous avez lu le passage, nous allons voir dans le livre d'Actes. Et le livre d'Actes, c'est un livre très intéressant. C'est le seul livre qui est inspiré, livre inspiré par Dieu, qui parle de l'Église primitive, qui raconte la vie de l'Église primitive. Il faut rappeler que ce n'est pas un livre doctrinal, mais un livre d'histoire. Ça contient l'histoire, les choses telles que sont passées, ce que les apôtres ont fait, comment ils ont agi, réagi dans leur vie pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui est marqué dans le livre d'Actes des apôtres. Ce n'est pas un livre doctrinal, c'est-à-dire que ça, on peut tirer l'enseignement, mais ça enseigne pas comment l'Église devrait être, parce que vous allez trouver plusieurs exemples. Ce sera difficile. Et quelqu'un qui a bien dit que dans notre Bible, c'est écrit Actes des apôtres, mais quelqu'un a dit que c'est plutôt les Actes de l'Esprit Saint, l'acte de Saint-Esprit. Parce que dans le livre, on voit comment l'Esprit Saint a bougé, comment il a agi dans la vie des apôtres, dans la vie des hommes, comment il a opéré les miracles, les prodiges. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, on peut voir dans la Bible, si quelqu'un peut lire Actes 2, 4 parmi nous, Actes 2, 4. Actes des apôtres, chapitre 2. Nous connaissons tous comment ce livre commence. Actes 2, 4.
Et furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur venait de s'exprimer.
Voilà. Donc, ça commence avec le jour de Pentecôte. Ils tous étaient remplis de Saint-Esprit. Ils commencent à parler en langue. Devant. Toutes ces nationalités, tous les gens qui sont venus de partout dans le monde. Donc, le livre commence ainsi. Et après, quand nous voyons, prenez le livre d'Actes, chapitre 6, on parle c'est le choix de diacre dans l'Église primitive. Donc, Actes 6, 8 et 10, ils choisissent les sept diacres. Je vais lire à partir de 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit. Homme plein de foi et de Saint-Esprit. Et regardez le verset 5. Verset 8. Étienne, plein de foi et de puissance, faisant des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Regardez le chapitre 7, 55. Il grinçait les dents contre lui, mais Étienne, rempli de Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, encore une fois, on voit que Étienne, il était rempli de Saint-Esprit. Il y a un autre passage que je vais vous montrer. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Et Actes 5, verset 9. Si quelqu'un a ce passage, vous pouvez lire. Actes 5, verset 9. Voilà. Oui. Donc, apôtre Pierre, il demande à ce couple, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur. Donc, on voit que le Saint-Esprit, il est là, présent dans les pages du livre d'Actes des apôtres. C'est à nous de découvrir. On devrait poser la question, mais il est où le Saint-Esprit? Il est où Dieu? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Hein? Encore une chose, si vous prenez le chapitre 8 hein, d'Actes, nous voyons cette histoire de Philippe, Philippe le prédicateur, qui va aller prêcher à Samarie, et l'histoire d'Eunuque. Hein? Philippe, il rencontre l'Eunuque, ou l'Eunuque, il rencontre Philippe. Hein? Ça dépend. Mais en tout cas, on voit que c'est une opération de Saint-Esprit. Hein? L'Eunuque, il rentre du temple de Jérusalem. Hein, il n'a pas droit d'aller dans le temple. Il rentre de l'église, temple de Jérusalem. Il est sur un chemin dans le désert où il n'y a personne. Hein. Il voyage dans son char. Philippe, il est en train de prêcher à Samarie où il y a beaucoup de conversions. Hein, il y a une grande conversion. Et le Saint-Esprit, il dit à Philippe, non, tu quittes ce lieu et tu vas dans le chemin qui amène vers le désert. Mais un peu fou, hein, cette décision. Dans le vue humaine, c'est un peu incompréhensible. Pourquoi il y a autant de personnes qui convertissent et pourquoi quitter tous ces gens-là pour aller dans le désert où il n'y a personne? Mais Dieu, il envoie une personne. C'est une qui est en train de chercher Dieu dans la page de la Bible. Il est en train de lire Isaïe 53. Isaïe 53 qui parle de Jésus-Christ. Donc il est en train de chercher Dieu et dans son char, assis dans son char, le char va vite. Le Saint-Esprit dit, allez, vas-y, cours maintenant, tu vas rejoindre le char et tu vas parler avec l'Eunuque. Vous voyez l'opération du Saint-Esprit dans cette histoire? Et Philippe, il court, il demande, il pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tout de suite, il répond, comment je peux comprendre si quelle personne m'explique? Et alors, Philippe, il commence à expliquer. L'Eunuque, il invite Philippe de monter dans le char. Les deux, ils voyagent ensemble dans le désert. Il n'y a personne, non? Et l'Eunuque est converti. Et tout de suite, il voit un point d'eau. L'Eunuque, il demande le baptême. Et Philippe, il baptise. Après, si vous voyez, regardez Acte 8, regardez le verset 29, quelqu'un peut lire, hein, si vous trouvez avant moi. 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Hein? Après, vous voyez le verset 39. Philippe baptisa à l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Donc, vous voyez comment le Saint-Esprit il a opéré pour faire rencontrer ces deux hommes. Hein, c'est humainement, ce n'est pas probable, hein, c'est quelque chose. C'est comme si on devrait dire que c'est par hasard qu'ils sont rencontrés. Ce n'est pas par hasard. Le Saint-Esprit a opéré puisque les deux hommes peuvent rencontrer pour la conversion d'une seule âme. Il amène Philippe de Samarie jusqu'ici et l'homme est en train de chercher Dieu. Et Dieu, il a déjà prévu prévu son salut. Hein? Si vous voyez le chapitre 9, verset 43, et le chapitre 10, il parle d'histoire d'un... un chef militaire, Corneille. Hein, on sait. Hein. Le chapitre 10, ça parle le chef militaire italien, Corneille. Hein. Et le verset 43, le chapitre 9, hein, Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Pierre, un juif, Pour lui, c'est très sale, le métier de courroyeur, celui qui travaille avec la peau des animaux morts. Mais ici, Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un courroyeur nommé Simon. Et après, on voit que Pierre, il est envoyé chez Corneille. Pour Pierre, demeurer chez un courroyeur, c'est égal à aller dans une maison d'un païen. Corneille, c'est un païen. Mais on voit comment le Saint-Esprit, il a préparé le cœur de Pierre. Au même moment, il est en train de préparer le cœur de Corneille pour accepter le Seigneur. Pas seulement Corneille et tout son entourage. Donc, pourquoi on ne peut pas appeler ce livre comme acte de Saint-Esprit? Hein? Et je vais vous démontrer un autre passage, c'est le passage que nous allons voir. C'est la préparation de deux personnes ici. Un, c'est Saül, et l'autre, c'est Ananias. Mais quand vous avez lu ce passage, certainement, on a remarqué Saül, c'est une personnalité incroyable qui... Il est incroyable, la personnalité de Saül, qui devient Paul. Saul à Paul. Mais Ananias, on peut ignorer. Hein? Quand on lit ce chapitre, parce que devant le soleil, on ne voit pas les étoiles. Mais les étoiles, elles brillent quand même. Et Ananias, il est là, dans ce passage. Il est là. Hein? Mais c'est possible qu'on peut louper Ananias dans ce passage. Mais Dieu, il utilise des hommes très simples comme vous et moi. Il cherche à utiliser les gens comme nous sommes. On est timide, on n'est pas... On ne peut pas sauter comme l'apôtre Pierre. On est souvent timide, on ne veut pas faire certaines choses. On pose 1000 questions avant de partir en mission. Quand je dis mission... C'est pas comme David Livingstone, non? Mais même quand Dieu il nous demande d'aller parler avec un voisin, on hésite, on pense qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va, comment il va me juger, comment je vais être jugé. Hein? Et on est un peu comme Ananias. Mais Saül, la conversion de Saül, c'est spectaculaire. Et cet homme, nous lisons uniquement dans le Nouveau Testament et seulement deux fois. Et la première fois, nous voyons Actes chapitre 9, jusqu'à verset 20. Et après, dans le chapitre 22 du livre de Actes, on voit encore parler d'Ananias. Et Ananias, ici, dans le livre d'Actes, il est présenté comme un chrétien simple que Dieu peut utiliser. Un chrétien simple comme vous et moi, que Dieu peut utiliser. Dieu cherche à utiliser les hommes comme Ananias. Mais bien sûr, dans l'Église, l'Église a besoin, les apôtres comme Paul, l'Église a besoin, les gens comme Paul. Mais l'Église, elle est souvent peut-être remplie avec des Ananias. Mais voilà. Donc, premièrement, on peut dire que la personne que Dieu veut utiliser, ça devrait être membre du corps de Christ. Il devrait être dans l'Église. Il devrait être dans l'Église pour être utilisé. Il devrait appartenir au corps de Christ. Hein? Il devrait être né de nouveau. Hein? Il devrait être né de nouveau. Et il devrait être baptisé, comme dit en 1 Corinthiens 12, 13, baptisé dans le seul esprit pour former un seul corps. Donc, il devrait appartenir au corps de Christ. Hein? Il devrait être né de nouveau, il devrait être baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, on ne peut pas dire que je vais être un brebis errant. J'espère que vous comprenez le sens. Je suis quand même un électron libre sans l'Église, mais Dieu va m'utiliser. Mais Dieu cherche les hommes qui sont déjà en train de travailler dans son corps. Et on voit dans la vie d'Ananias, il était à Damas, Il était parmi des chrétiens. Il se trouvait parmi des chrétiens, Ananias. Il n'est pas sorti de bleu tout d'un coup de nulle part. Peut-être il est en train de travailler dans l'église. Souvent, Dieu, il cherche, quand il cherche les gens, il prend les gens qui sont en train de faire quelque chose. Ce n'est pas les gens qui croisent les bras, ils s'assoient, ils lamentent. Dieu l'utilise plein de beaucoup d'autres personnes, pas moi. Mais Dieu, si vous êtes occupé, aujourd'hui un frère il a partagé qu'il est très occupé en ce moment. Ça nous arrive, hein, ça peut nous arriver les moments comme ça où nous sommes épuisés, on est trop pris par le travail et tout ça. Mais on devrait faire ce qu'on est en train de faire, mais Dieu il peut t'utiliser selon sa volonté. Il peut transformer les choses. Et ce qui est parfois important, mais parfois on peut plaindre par rapport à le temps, le manque de temps. Ananias, certainement, il aurait pu dire la même chose. Mais Dieu peut changer notre quantité, la quantité de temps en qualité de temps. Parfois, vous savez, on peut dormir pendant 8 heures, mais on a mal dormi. Mais parfois, on peut dormir une heure, on a une bonne heure de sommeil et une bonne heure de repos. Et ça, c'est la qualité de temps. Dieu, parfois, on peut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas satisfait, on est fatigué. Mais parfois, une heure à ses pieds, ça peut transformer notre vie. C'est ça qu'on devrait chercher. Donc, Ananias, il n'était pas quelqu'un qui faisait rien, mais il était en train de faire des choses dans le corps de Christ, et Dieu l'appelle. Et quand on parle de corps de Christ, vous vous rappelez ce que dans le passage Dieu dit à Saul, 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 pourquoi tu me persécutes, hein? Et quand Saul, il n'a jamais persécuté Dieu, il a persécuté des chrétiens. Mais Dieu, il voit que quand le corps de Christ est persécuté, Dieu, il est touché. C'est pourquoi Dieu le parle comme ça. Donc, le corps de Christ, on devrait comprendre combien c'est important pour nous, pour notre vie chrétienne. Le corps de Christ est très important. Et deuxièmement, Dieu, souvent, il peut prendre quelqu'un qui est... les hommes, ils ne pensent pas qu'il peut être utile. Hein, vous vous souvenez dans l'histoire de David, hein? Samuel, il est en train de voir des 8 autres frères. Mais même pour son père, le père de David, il n'est pas considéré que David comme quelqu'un, un bon candidat pour Samuel. Hein, il était petit, le petit, il est en train de pêtre le brebis dans le... Non, tu appelles David. Et Samuel dit, Dieu il dit à Samuel, les hommes regardent l'apparence. Voilà, merci. Les hommes, ils regardent les apparences, mais Dieu, il voit le cœur. Donc, il faut comprendre que peut-être dans l'église primitive, il y avait d'autres personnes que les gens, ils pensaient, ah, Dieu va utiliser. Mais Dieu, il appelle Ananias, il dit que va vers Saul. Mais Ananias, il a eu très, très peur de rencontrer Saul. Saul, il a renommé, hein, pour ce qu'il faisait. Mais Dieu, il appelle Ananias pour aller rencontrer, faire face à cet homme terrible qui s'appelle Saul. Parfois, nous pouvons ignorer, hein, mais parfois on a la tendance de voir le forêt, mais nous oublions l'arbre. Hein. On peut oublier l'arbre, hein, en voyant la forêt. Et Dieu peut utiliser des personnes qu'on ne pense pas très utiles. Vous savez, dans l'histoire de Naaman, 2 Rois 5:2, l'histoire commence comme ça, mais finalement on trouve que le salut de cet homme, il vient d'une petite fille qui était amenée esclave. Son nom, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Hein. Dieu il a trouvé utile de ne pas mentionner son nom dans la parole. Mais parfois, on trouve le nom de... Il y a beaucoup de noms, hein. Si vous voyez, parfois, la chronologie... Non. généalogie, on voit beaucoup de noms, mais on ne connaît pas ces gens. Mais parfois, il y a des gens qui ont fait des choses très importantes, mais leur nom, ce n'est pas donné. Hein? Dieu, il n'a pas trouvé utile, mais il a pu utiliser cette petite fille esclave pour la gloire de son nom. Hein? Pour être général syrien. Et acte 9, regardez le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Mais je voulais simplement que vous remarquiez que quel mot est utilisé. Ce n'est pas le mot un pasteur, ce n'est pas un diacre, ce n'est pas un apôtre. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est marqué? Il y avait un disciple. Hein? Donc, nous sommes tous les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes tous les disciples. Hein? Hein? Le disciple, ce n'est pas un titre, mais c'est une appellation qui amène gloire à notre maître. Hein? Ananias, ce n'était pas un apôtre ici, c'était un disciple, simplement un disciple comme vous et moi. Il était un simple disciple. Donc, la première fois, mais après, dans le chapitre 11, je crois, 11-24, le disciple, pour la première fois, il était appelé des chrétiens. Pas des autres, hein, parce qu'ils suivaient Christ, ils étaient appelés chrétiens pour la première fois. Sinon, avant, c'était les disciples. Avant, c'était des disciples. Donc, Dieu, il choisit, il peut choisir n'importe qui. Hein, il ne faut pas qu'on pense que Dieu appelle certains types d'hommes, pas moi, hein. On peut penser. Regardez 1 Corinthiens 26-28. 1 Corinthiens, versets 26-28. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Hein? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, c'est clair, hein? Dieu, il ne choisit pas des intelligents, les braves. Je suis sûr que Ananias, il tremblait, hein, quand Dieu l'a appelé pour aller confronter Saul. Et certainement, c'était à l'époque. Ce que Saul il a fait, les chrétiens, ils sont certainement tremblés. Ils sont certainement tremblés. Et Ananias ne devrait pas être une exception. Hein? Parce que Saul, il a attrapé les chrétiens, il l'a amené pour tuer. Et certainement, Ananias, il tremblait. Mais Dieu a choisi les choses les plus folles du monde. Hein? Ceux qui ont peur, ceux qui tremblent. Gédéon, il n'était pas un homme brave. Hein? Devant les Midianites, Gédéon, il tremblait. Hein? Mais Dieu, il l'appelle, il prend, il le forme. Il fait un grand général. Hein? Et aussi, la personne que Dieu veut utiliser, il devrait être un homme qui craint Dieu, qui obéit Dieu, hein, qui est pieux. Acte 22:12. Quelqu'un peut lire ce passage?
Demeurant à Damas. rendez un bon témoignage, vint se présenter à moi.
Voilà. Donc, ce qu'on voit dans Ananias ici, le juif, il portait un bon témoignage par rapport à cet homme. Hein? Donc, il était considéré comme un bon chrétien. Il était considéré comme un bon chrétien. Donc, on devrait, quand Dieu nous appelle, Dieu, il prend quelqu'un, il voit son témoignage aussi. Ce n'est pas par rapport à ses propres paroles, mais il devrait vivre selon sa parole. Ce qu'il dit, il devrait faire. Donc, Dieu honore ce type de personne. Donc, il prend les gens qui craignent Dieu. Hein? On peut prendre l'exemple de Marie, le mère de Jésus. Hein? Dieu l'a pris. Elle n'était pas une femme extraordinaire, mais elle voulait glorifier Dieu. Elle craignait Dieu. Donc, Dieu l'a pris pour utiliser pour être la mère Thérèse, le fils de Dieu. Et prenez l'exemple de Joseph. Joseph, c'est un homme juste. Hein, la Bible dit que Joseph, c'était un homme juste. Et donc, Joseph, il était pris par Dieu pour son plan, pour accomplir sa volonté. Et aussi, l'homme ou la personne que Dieu appelle pour son œuvre, il devrait être prêt à obéir. Hein? Il devrait être prêt à obéir. Disponible, c'est ça le mot. Il devrait être disponible. Regardez Isaïe chapitre 6. On connaît ce passage, mais simplement puisqu'on peut remarquer une chose, la disponibilité. Isaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disant, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Hein? Dieu, il est en train de chercher les hommes et les femmes pour son œuvre. Et Dieu, il demande, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et qu'est-ce que Isaïe dit? Après cette vision, il a vu la grandeur de Dieu, il a vu la sainteté de Dieu. Certainement, il tremblait de peur quand il a vu cette vision. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit alors, je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Mais combien de personnes on est prêt à dire à Dieu, c'est il y a quelque chose qui connecte avec le cantique que nous avons chanté, envoie-moi où tu veux. Hein? Combien de personnes entre nous sommes prêts à dire que me voici, envoie-moi. Mais si Dieu nous envoie quelque part, on va poser 1000 questions, je suis sûr. Hein? On va demander où tu veux que j'aille. Mais est-ce qu'il y a un métro là-bas ou un train là-bas? Si c'est un village sans transport, ce sera difficile pour moi. Je n'ai pas la voiture, mais comment je peux aller? hein, mais souvent, c'est le temps, hein, je n'ai pas le temps. Mais on va dire, on a mille excuses à donner. Mais ici, cet homme, il dit que « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Et une autre chose, si nous voulons être utilisés par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle aux autres, nous devrions avoir le cœur de Christ. L'amour de Dieu, nous devrions avoir dans notre cœur. Sinon, on ne peut pas. Et regardez dans le Acte chapitre 9. On va lire à partir de verset 13. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, « Saül, mon frère. » Comment Saül l'a adressé à cet homme? Un homme terrible, un meurtrier qui tuait les chrétiens. Il pose ses mains. Il dit, « Saül, mon frère. » Mais qu'est-ce qu'il lie ces deux hommes complètement différents? Qu'est-ce qu'il a lié ces deux hommes complètement différents? Un qui est un enfant de Dieu, l'autre. Mais si le Seigneur ne l'a pas dit, il ne peut pas savoir. Donc le Seigneur, il a confirmé, « C'est un enfant, c'est mon enfant. Donc tu devrais aller rencontrer. » Et il va aller, il l'adresse, « Saül, mon frère. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais, bon, les gens, aujourd'hui, ils peuvent utiliser « Ça va, mon frère », mais ça ne veut rien dire. Hein? Ça ne veut rien dire. Mais quand on dit « mon frère » ou « ma sœur », il y a une affection chrétienne. Hein? Il y a l'amour de Dieu qui nous pousse à adresser comme frère et sœur. Et un homme qui est utilisé par Dieu pour aller vers les autres, il devrait avoir ce pouvoir de donner lui-même comme une bénédiction pour les autres. Il est envoyé comme une bénédiction pour les autres. Regardez Exode 32-32. Cet homme Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé? Hein? Et qu'est-ce qu'il il fait, Moïse, Exode 32-32? Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché et se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Mais quand on est envoyé par Dieu pour son œuvre, qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier? Si nous ne sommes pas prêts à sacrifier notre vie, nous-mêmes, on ne peut pas chercher la gloire de Dieu. Et Moïse, il cherchait seulement la gloire de Dieu. Et plus tard, Moïse dit, qu'est-ce que les païens, ils vont parler de toi si tu extermines ce peuple? Mais il dit que efface mon nom de ton livre, mais tu ne détruis pas ce peuple. Il plaide pour ce peuple. Regardez en Romains 9, 3. Livre de Romains, chapitre 9, 3. Ici, on voit l'apôtre Paul. Hein. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être un anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Vous voyez, l'apôtre Paul, plus tard, il dit que moi-même sois un anathème pour ma famille, pour mes frères et pour mes sœurs. Et vous rappelez ce que Abraham il a fait, Genèse chapitre 18, regardez les versets 25, Genèse chapitre 18, verset 25. Faire mourir le juste avec les méchants en sorte qu'il s'en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Regardez les versets 32 à 33. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si je trouverai-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne le détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Donc Abraham, il plaide avec Dieu pour ce peuple. Ce peuple, il n'était pas des saints. Hein? Le peuple de Sodome et Gomorrhe, il commettait le pire des péchés à cette époque. Mais Abraham, il plaida pour ce peuple qui sont injustes, qui sont pécheurs. Et c'est la même chose que Jésus-Christ l'a fait pour nous, n'est-ce pas? Nous qui étions autrefois injustes, des pécheurs terribles, il a plaidé auprès de Père pour nous. Pas simplement plaider, il s'est posé entre nous et Dieu. Il a subi la colère de Dieu à cause de nous. Il a porté nos péchés. Hein? Il a porté nos péchés. En lui, il n'y avait pas de péché, mais il a porté nos péchés sur lui. Hein? J'étais en train d'écouter, mais quelqu'un a fait la remarque. Il n'y avait pas de péché en lui, Fils de Dieu, mais il a porté nos péchés. Tous nos péchés étaient posés sur lui, le fardeau de nos péchés, il a porté. Donc Jésus-Christ l'a fait exactement ces choses. Si nous avons l'amour de Dieu, nous pourrons aller rencontrer les sols, même s'ils sont terribles, nous pouvons aller rencontrer les sols. Mais Dieu, il cherche les hommes pas brillants, pas extraordinaires, pas intelligents, pas les grands de ce monde, mais Dieu est en train de chercher les gens simples comme Ananias. Mais je pense toujours que un message comme celui-ci ou une prédication, ça devrait nous instiguer, stimuler de méditer plus la parole de Dieu pour penser. Donc c'est simplement une stimulation puisqu'on peut penser. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage sur la vie d'Ananias? Mais on devrait méditer pour réfléchir bien si Dieu peut utiliser Ananias. Il veut utiliser moi aussi. Mais la grande question, est-ce que je pourrais dire comme Ésaïe, envoie-moi, moi aussi, envoie-moi. Prions. Seigneur, ta sainte parole nous interpelle toujours. Seigneur, nous ne pourrons pas ouvrir ta parole et fermer sans que nous soyons interpellés. Merci parce que ta parole est et la vie. Seigneur, elle nous nourrit. Seigneur, ta parole est la sagesse. Seigneur, merci parce que tu n'as pas choisi les choses les plus brillantes de ce monde, Seigneur, mais tu as choisi les choses les plus folles du monde. Et Seigneur, nous considérons que nous avons des récipients de ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, prends chacun d'entre nous, utilise-nous pour ta gloire. Seigneur, sois avec chacun ici présent, comme nous allons rentrer chez nous. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là parmi nous. Nous prions que tu sois avec eux aussi. Nous prions cette prière dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen.